L'an d'histoire, aujourd'hui, Staline.
Eh oui, des bagnes de Sibérie jusqu'au Kremlin, la conquête du pouvoir par Staline. Staline a pris possession du pouvoir, non par ses qualités personnelles, mais en se servant d'une machine impersonnelle. Et ce n'était pas lui qui avait créé la machine, mais la machine qui l'avait créée. Trotsky. D'histoire. C'est une histoire dont Shakespeare aurait pu faire une tragédie, celle d'une poignée d'hommes qui, il y a 100 ans, ont transformé le monde en provoquant derrière Lénine une des plus grandes révolutions de l'histoire. C'était en 1917. Ils s'appelaient Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Rykov, Boukharine et Staline. Mais aucun d'entre eux n'imaginait la violence du régime qu'ils allaient mettre en place, ni qu'ils en seraient eux-mêmes les victimes. 20 ans plus tard, ils étaient tous morts ou en exil. Tous sauf Staline, qui après la mort de Lénine les avait éliminés les uns après les autres pour détenir sans partage un des pouvoirs les plus tyranniques de l'histoire. Si bien qu'en 1937, en s'adressant au comité central du parti communiste du RSS, Staline pouvait s'emparer de l'héritage de Lénine et se proclamer son seul héritier. Il n'avait plus personne en face de lui pour l'en empêcher.
Le camarade Staline accomplira son devoir devant le peuple, devant la classe ouvrière, devant les paysans et devant l'intelligentsia. Que les députés soient des combattants intrépides, impitoyables envers les ennemis du peuple comme l'était Lénine. Qu'ils soient justes et honnêtes comme l'était Lénine. Qu'ils aiment leur peuple comme l'aimait Lénine.
Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
On a entendu un des très rares enregistrements de la voix de Staline. C'était en 1937. À ce moment-là, il se retrouvait seul au sommet d'un pouvoir conquis en éliminant tous ses rivaux. Une conquête dont vous parlez au tout début de votre dernier livre qui vient de sortir aux éditions du Rocher, Le fantôme de Staline. Cette histoire, cette conquête du pouvoir, ça ressemble, dites-vous, à une tragédie de Shakespeare. Il y a du sang, de la ruse, des trahisons et même de la folie un peu.
Bien sûr, mais il y a la grandeur aussi. On a dit c'est la machine qui a créé Staline.
C'est
Trotsky qui dit ça, mais Trotsky a forgé quelque peu une légende de Staline, une légende de médiocrité de Staline. Je ne suis pas certain que ça conforme à l'histoire, et je pense que votre comparaison avec Shakespeare, c'est plutôt pertinent, vraiment.
Vous la reprenez vous-même, Vladimir Fedorovski. Mais alors, dans cette tragédie qui a été la conquête, puis d'ailleurs l'exercice du pouvoir par Staline, au tout début, avant qu'il devienne le chef, le patron du RSS, c'était plutôt un figurant, un personnage de petite envergure, dit-on. Il est très modeste, il faut rappeler, vous le faites, sa jeunesse. Hein, il est d'une famille modeste, il est né en 1879 en Géorgie, d'un père cordonnier. Il s'appelle encore Joseph Djougachvili, et c'est un personnage qui paraît très inconsistant, en tout cas au début, pendant longtemps, à côté justement du charisme qu'avait Trotsky, par exemple.
Bien sûr, Trotsky, Lénine, c'était les intellectuels basés plutôt à l'étranger. Staline, c'était plutôt à l'intérieur de la Russie. Mais quand même, détrompons-nous. Contrairement à la légende établie, c'était un meilleur des élèves au séminaire. Il était quand même formé comme séminariste. Et puis, même
ça, c'était pour faire ses études. C'était le seul moyen de les faire sans payer, je crois.
Bien sûr, mais au-delà de ça, sa mère aurait voulu qu'il devienne prêtre. Et puis, je pense qu'après, ses études l'ont influencé, du moins dans les discours, sinon dans la démarche, parce que derrière la façade marxisant, il y a toujours en Staline les choses beaucoup plus bizarres. Il y a les références sur la Russie éternelle, sur l'histoire française souvent, mais aussi sur les choses parfois même irrationnelles. Braqueur de banque courageux quand même, qui a su après remplir des caisses de parti. Et après, c'est vrai que ces intellectuels, ça me rappelle un peu, comment vous dire, chez vous, les gens qui sont chez Domago, où ils ont leur quartier général des bolcheviks, de Lénine et de Trotsky, c'était Closerie de Lila. Staline était en prison et il a forgé son destin là-bas. Quand même.
En exil en Sibérie, parce qu'il a été arrêté plusieurs fois, justement. Et d'ailleurs, c'est là, vous le dites, qu'il lit énormément l'histoire de la Révolution française, fasciné par le personnage de Robespierre. Et puis, un personnage est également très très violent, vous le rappelez, et qui se fait remarquer très rapidement au sein du parti. Il y adhère en 1905 du parti bolchevique, il s'appelle encore comme cela à l'époque. C'est d'ailleurs en Sibérie aussi qu'il prend le nom de Staline. Hein.
Le nom de Staline, ben vous visez juste. Moi, j'ai une fois, j'ai visité la bibliothèque de Staline. Franchement, j'étais en compagnie d'un dirigeant arabe que vous connaissez tous, qui se prenait pour la réincarnation de Staline, c'était Saddam Hussein, et j'étais frappé par le fait que parmi les livres qu'il lisait, qu'il annotait tout, il n'y avait pratiquement pas de livres marxistes. Il y a beaucoup de livres sur l'histoire française, vous visez juste, il connaissait très bien l'histoire surtout de la Révolution française, et même j'ai vu une phrase bizarre annotée dans le manuel de la magie noire, exactement la même chose qu'Hitler, visualisation de l'avenir, association des choses, disons, de la propagande avec la foule. La référence sur l'histoire, ça, je pense qu'une autre clé pour comprendre la personnalité de Staline.
Alors l'histoire, il va la faire en adhérant au parti bolchevique, il devient le protégé de Lénine, qui le remarque, et grâce auquel il va gravir tous les échelons du parti bolchevique jusqu'à y être nommé au comité central, poste auquel il se trouve quand se déclenche la révolution de 1917. On écoute un des rares enregistrements de la voix de Lénine, 3 ans plus tard, en 1920.
Qu'est-ce que le pouvoir soviétique? Le caractère particulier qui lui attire de plus en plus les ouvriers de tous les pays réside dans le fait que partout et toujours, c'était les riches et les capitalistes qui gouvernaient l'État. Tandis que maintenant, pour la première fois, un État est gouverné par les classes qui étaient opprimées.
L'insolence des nobles et des riches, à terre plantons la lance de notre rouge étendard, et si demain le peuple bouge aux quatre coins de la terre, flottera le drapeau rouge, le drapeau des prolétaires. C'est une chanson, une vieille chanson de 1897, mais adoptée par tous les révolutionnaires, et ces bolcheviks justement qui plantaient 20 ans après cette chanson le drapeau des prolétaires en Russie en 1917, pendant une révolution à laquelle Staline a relativement peu participé. Il est revenu, personne ne l'accueillait d'ailleurs quand il est revenu au printemps 1917 de son bagne de Sibérie. Mais alors, il a le soutien de Lénine. Lénine qui disait « mon merveilleux géorgien ».
Bien sûr, c'est Lénine qui pousse Staline à la première ligne. Dans la réalité, Staline, il était un des collaborateurs les plus proches de Lénine. Et ce qui les a réunis, et cette fois-ci, ça concerne à la fois Lénine, Trotsky et Staline, Ils disaient que la terreur absolue, ils utilisaient le mot industriel, c'est le moyen le plus sûr d'assurer la révolution. La terreur, c'est une dimension fondamentale de la révolution bolchevique de la première heure. D'ailleurs, contrairement à la légende établie, Trotsky, il a poussé Staline à être plus féroce. Je sors dans le fantôme de Staline. D'ailleurs, une phrase terrible de Trotsky, il disait, il faut assurer le nettoyage définitif de la Russie, mais Staline, il est allé évidemment dans son sens là.
Il faut rappeler le contexte, hein, Vladimir Fedorovski, c'est que juste après la prise du pouvoir, ce sera la guerre civile, hein, contre les Blancs, qui ne sont pas tendres non plus avec les bolcheviks, et cette terreur, elle n'est pas gratuite, elle vise à éliminer tous ceux qui peuvent renverser le nouveau pouvoir des bolcheviks. D'ailleurs, Staline va y participer, vous le rappelez aussi, puisque en même temps qu'il est nommé commissaire du peuple, c'est-à-dire ministre aux nationalités, puisqu'il est géorgien, il est envoyé, notamment dans une ville qui va porter son nom, qui s'appelait Tsaritsyne, il est envoyé, et qui s'appellera plus tard Stalingrad, dans cette ville, donc pour purger, pour épurer, pour l'épurer, pour éliminer les Blancs, enfin ceux qui s'opposaient au régime.
Au-delà de ça, au-delà des Blancs, la peur, c'est une dimension aussi majeure de fonctionnement de ce régime. C'est vrai que Tsaritsyne, il a commencé à tuer massivement, il prenait les bateaux, il fait couler les bateaux avec les femmes et les enfants. Mais par exemple, Trotsky, je vous signale, à toutes fins utiles, il était tout à fait, il allait dans, au-devant même de Staline. C'est lui qui a inventé le système effrayant. Dans les archives que je sors, ça m'a effrayé. C'est le système d'otage enfant. Si les gens trahissaient, ils tuaient systématiquement l'enfant. Et le résultat de leur action à tous les trois, c'est juste le chiffre. C'est un chiffre effrayant à partir de cette période jusqu'à la fin du communisme. 25 millions de morts.
Et puis il y a le rôle effectivement de Trotsky, par exemple, pour réprimer la révolte des marins de Kronstadt. En tout cas, ils y sont tous les trois dans cette terreur. Et puis brusquement, la fin de la guerre civile leur permet de penser un petit peu à l'organisation du pouvoir. Et Staline se voit confier une responsabilité essentielle à un poste créé justement en 1922 et grâce auquel il allait pouvoir éliminer tous ses rivaux. On écoute l'extrait d'un excellent téléfilm américain de Ivan Passer.
Camarade, nous avons un seul point à l'ordre du jour. Le secrétariat. Comment le rendre plus efficace? Je crois que nous devrions assigner l'un ou l'autre d'entre nous au secrétariat. En tant que secrétaire général. Et pourquoi pas toi, camarade Trotsky?
On ne me charge pas d'un tel poste. On en charge un mulet. On en charge un Staline.
Tu acceptes, camarade Staline?
Si personne ne se dévoue, je m'y dévouerai. Je vous remercie. Il me confie les pleins pouvoirs. Je contrôlerai tous les leviers. Ils ne savent même pas ce qu'ils font.
Et ils l'apprendront en effet à leurs dépens, parce que c'est ce poste de secrétaire général, dont apparemment personne ne voulait, qui va devenir très vite le plus important en Russie. C'est celui qu'occuperont tous les dirigeants qui succéderont à Staline au pouvoir en Russie. C'est pas le président, c'est pas le premier ministre, c'est le secrétaire général du parti. Et là, c'est à ce poste que stratégique que Staline, grâce à ce poste, va éliminer tous ses rivaux, en tout cas jouer de manière à pouvoir sortir justement, à succéder à Lénine.
Bien sûr. Là, Staline, il donne toute sa dimension, et je pense que dans ce personnage, et c'est pour ça qu'il est aussi shakespearien, c'est un des plus grands manipulateurs de l'histoire. Sinon, un des plus grands hommes politiques, évidemment, du XXe siècle, mais avec cette dimension, avec cet accent sur la manipulation, il savait jouer les clans les uns contre les autres, et bientôt, il va s'emparer du pouvoir total. D'autant plus que bientôt, Lénine sera très malade. Il n'arrive pas à vraiment assumer toutes ses responsabilités. Staline, alors, dans la réalité, il arrête Lénine. Mais ça, on ne dit pas assez. Il y a une arrestation de fait physique de Lénine malade, et à ce moment-là, Staline contrôle tout en jouant les uns
contre
les autres.
Sans que personne ne le remarque, il y a ce mépris qu'avait Trotsky, encore une fois très populaire. Il était, il faut le rappeler, commissaire à la guerre, celui qui avait réussi à sauver la révolution contre les Blancs, et qui disait de Staline la plus éminente médiocrité du parti. Au fond, cette espèce de cet effacement de Staline qui n'a pas d'allure, qui travaille dans l'ombre, qu'on n'entend jamais parler, c'est un très mauvais orateur, ça a finalement beaucoup servi, parce que on n'a pas vu venir, Vladimir Fedorovski.
C'est vrai, mais en même temps, je dois vous dire que Trotsky, quand il dit le mot médiocrité, il forge une grande désinformation du XXe siècle. Ils essayent de présenter Staline comme une médiocrité, ça ne correspond pas tellement à la réalité, parce que vous savez, Staline c'était un grand intellectuel en réalité, il lisait énormément, il écrivait lui-même les discours, et les discours, on peut en citer beaucoup, ces discours c'était souvent les chefs-d'œuvre même de la manipulation politique. J'aurais pu vous citer les discours plus tardifs sur la guerre, mais au moment de la prise du pouvoir aussi, il utilise ça avec beaucoup de brio.
En tout cas, il est avec Trotsky, surtout au moment où Lénine tombe malade, je crois qu'il a eu une attaque cérébrale, il est avec Trotsky, Staline et Trotsky sont vraiment les deux successeurs les plus probables de Lénine, qui se méfie d'ailleurs de l'un autant que de l'autre. Il l'écrit en 1923 dans ce qu'on a appelé son testament. Il dit de Trotsky qu'il pêche par un excès d'assurance et un engouement exagéré pour le côté purement administratif des choses, mais c'est pour Staline que Lénine est le plus sévère et le plus lucide.
Le camarade Lénine mentionne aussi que Staline est trop dur. Et cette faute est évidemment intolérable chez celui qui détient le poste de secrétaire général. Par conséquent, je propose à mes camarades de déterminer par quels moyens Staline peut être déchu de ce poste et d'y faire accéder une personne plus patiente, plus loyale et plus attentive.
Zinoviev,
Trotsky.
Est-ce que le camarade Lénine a réellement écrit ces mots? Et s'il l'a fait, c'est à cause des ravages de la maladie, parce qu'on ne reconnaît pas là notre Lénine. Si l'on admet que Lénine a bien écrit ces mots... Oui, camarade, je suis dur envers ceux qui tentent de diviser le parti. Je dois obéir au parti. Je demeure à mon poste.
Et Staline va rester en effet secrétaire général du parti, malgré cette lettre accablante que, dans un premier temps, vous le dites, Vladimir Fedorovski, Staline a voulu cacher. Évidemment, elle était embarrassante pour lui.
Parce que la lettre a été en réalité dictée par Lénine à une de ses secrétaires qui était sous le contrôle total de Staline. Et la femme, elle a porté cette lettre à la connaissance de Staline. Et là, pour faire le fantôme de Staline, j'ai rencontré le chef de cabinet de Staline. Et il m'a dit que Staline a proposé de brûler cette lettre, en réalité. Brûla, mais la jeune femme a oublié de dire à Staline qu'il y avait 3 copies encore dans le coffre de Lénine. Et alors, grâce à ces 3 copies, quand même, le testament de Lénine a été sauvegardé. Cela dit, le testament de Lénine est réellement ambigu. Il n'avantage personne. Il dit des choses dures sur Staline, mais il dit des choses dures aussi à propos de Trotsky et ses ambitions. Alors, la rivalité, j'ai réellement shakespearien, sera entre les deux clans, l'un clan stalinien, avec un message orienté vers la Russie éternelle, plus sur le marxisme que sur le marxisme, et le message de Trotsky, qui avantage la révolution mondiale.
Alors ce testament sera connu par le comité central, il y a eu une discussion, Trotsky lui-même ne souhaitait pas qu'il soit rendu public, cela dit, il a été caché aux Russes et au monde entier pendant plus de 30 ans. C'est en 56 seulement, il était tellement embarrassant pour Staline, qu'on a révélé, que Khrouchtchev, dans sa déstalinisation, a révélé ce fameux testament. Et très longtemps après aussi la mort de Lénine, Lénine meurt peu de temps après l'avoir rédigé. Là encore, Staline joue un rôle essentiel, d'abord parce que c'est lui qui assure, qui organise les obsèques, et qui s'arrange, vous l'avez dit, Vladimir Fedorovski, pour que Trotsky n'y soit pas.
Parce que Trotsky, à ce moment-là, il se trouve dans le midi, dans le sud de la Russie. Il est à la chasse, c'est un chasseur passionné, mais qui va à la chasse perd sa place parce que Trotsky n'est pas prévenu par Staline. Staline ne lui dit pas la date véridique des funérailles de Lénine. Il dit reste à la chasse. Ça vaut pas la peine que tu viennes. Tu n'as pas le temps de venir. En réalité, Trotsky aurait pu venir. Et ça, je pense que c'est un élément tout à fait fondamental de notre tragédie, un roman noir de Staline, parce que Staline, c'est le seul qui s'empare à ce moment-là de l'organisation de funérailles de Staline. C'est le seul qui dominera ces funérailles grâce à un discours. Mais quel discours? N'oubliez pas, c'est un discours dans le style pur de la Russie éternelle. Il s'adresse, et je tiens à le souligner, au code mental du pays. Vous savez, c'est une sorte de litanie orthodoxe, et tous les rôles sont distribués pendant les funérailles. C'est le Dieu vivant, c'est Staline, Dieu mort, c'est Lénine, et puis il y a l'ordre des chevaliers d'épée, c'est le parti, même il y a les icônes, c'est le portrait des dirigeants, même les pèlerinages, c'est le mausolée de Lénine, les rôles sont là. C'est une construction intellectuelle tout à fait réfléchie.
Plus tard, d'ailleurs, on l'appellera, comme on l'appelait les tsars, le petit père des peuples, le tsar rouge. Il fera appel au patriotisme des Russes quand il y aura l'invasion allemande. Mais entre-temps, il a encore, à côté de lui, une fois Lénine mort, des rivaux. Alors, il va jouer un jeu extraordinaire. Il va s'appuyer sur deux dirigeants du parti, Kamenev et Zinoviev, pour marginaliser Trotsky. Et plus tard, sur deux autres, Rykov et Boukharine, pour pousser dehors Kamenev et Zinoviev. Enfin, il joue un jeu de bascule, il divise tout le monde. Et puis, tandis que Trotsky peste contre le manque de démocratie dans le parti, avant d'en être écarté et envoyé en Asie centrale en 1927, on écoute la voix de Trotsky en français dans les années 20.
L'agitation révolutionnaire exige un régime de démocratie intérieure. La discipline révolutionnaire n'a rien à faire avec l'obéissance aveugle. La combativité ne peut être préparée par avance, ni dictée par un ordre d'en haut. L'aggravation inouïe du régime du parti doit avoir des profondes causes sociales et politiques. Nous, opposition de gauche, nous avons plus d'une fois analysé et révélé ces causes. La direction officielle du parti a-t-elle jamais soumis loyalement à la discussion du parti nos arguments? Jamais!
Camarades, ne les laissez pas le déporter! C'est Trotsky, l'ami de Lénine, c'est mon frère!
Et Trotsky sera donc envoyé en Asie centrale en 1927 avant d'être expulsé du RSS en 1929, puis assassiné par le KGB au Mexique en 1940. Le grand rival de Staline est donc éliminé, mais il n'est pas le seul, il sera le premier des opposants politiques, au sein du parti, parce qu'après avoir éliminé les Koulaks, après avoir éliminé tous les adversaires de la Révolution, c'est au tour du parti lui-même d'en être victime. Il y aura Zinoviev et Kamenev, exécutés en 36, Boukharine et Rykov en 38, bref, il n'y a plus personne pour s'opposer, il y a toute une nouvelle génération de bolcheviks, tous les dirigeants historiques ont disparu dans le cadre de purges qui sont absolument effrayantes. L'année 37, c'est-à-dire il y a exactement 70 ans, c'est cette année, ça a été épouvantable, veut dire Fedorovski.
Absolument, c'est les grandes purges, mais j'aurais utilisé quand même le mot de la grande terreur, parce que ça, c'est une terreur tout à fait consciente, qui touchait le parti, mais ça touchait toute la population. Je tiens encore une fois à souligner qu'en quelques jours, ils ont tué 100 000 personnes, il y a 70 ans. Au moins 800 000 personnes en 1937. Et puis au total, 25 millions, dit mon ami Alexandre Yakovlev. C'est quand même les choses ahurissantes qui confirmaient que l'emprise de Staline a coûté cher à ce pays.
Elle a coûté cher aussi, il y a eu la guerre, il y a eu quand même aussi le fait qu'il a sauvé son pays de l'invasion allemande, mais il y a aussi toutes ces purges, un régime dictatorial qui se termine à sa mort, en définitive, en 53, même s'il se prolonge un peu, mais il y a la déstalinisation. Ce qui est étonnant, c'est que malgré la déstalinisation et même la chute du régime soviétique, le fantôme de Staline, c'est le titre de votre livre, hante encore la Russie d'aujourd'hui, dites-vous, Vladimir Fedorovski.
Bien sûr, et je me suis posé la question pourquoi Staline est devenu le personnage le plus important, peut-être, de l'histoire de ce pays, et un des plus importants personnage du XXe siècle. Vous dites le fantôme de Staline rôde en Russie parce que
non, c'est vous qui l'écrivez. Hein.
Mais je vous signale que quand même il y a une chose très bizarre. Que, par exemple, les Allemands, ils ont occulté quand même, ils veulent faire le trait sur le passé concernant Hitler, et les Russes reviennent, ils comparent volontiers Staline au dirigeant de la Russie éternelle, aujourd'hui Poutine, réhabilite en quelque sorte, il y a une réhabilitation rampante.
Mais enfin quand même, justement Poutine, votre livre, sur la couverture de votre livre, on voit quoi? On voit deux portraits, celui de Staline et celui de Poutine. Quel rapport entre les deux?
Je vais vous dire, Staline, c'est du Shakespeare. Il ne faut pas simplifier. Peut-être Staline, il était Genghis Khan avec un télégraphe, on disait. Mais Poutine, c'est peut-être un petit-fils de Staline avec un Internet, même si son vrai grand-père, il était quand même cuisinier de Staline. Il y a ce qui réunit, c'est surtout la manipulation, mais aussi, ils s'adressaient tous les deux au code manteau de la Russie, éternelle. Vous savez, les ennemis sont partout. La Russie est une forteresse assiégée. Mais je voudrais vous dire, quand même, dans le fantôme de Staline, il n'y a pas du tout une sorte d'idée que la Russie est condamnée à être un pays sous la dictature. Le fantôme de Staline n'est pas obligé de rôder sur la Russie, parce qu'antithèse. Même dans ce livre, antithèse, il y a l'antithèse lumineuse. Il y avait Sakharov dans le livre, c'est les amours de Pasternak qui jouent un rôle d'antithèse. Alors je suis persuadé que cet esprit de manipulation qui nous rattrape quelque peu avec Poutine, c'est une sorte de passage qui n'était pas obligé par le temps qui court.
Oui, parce que vous rappelez quand même que la tombe de Staline, elle est toujours là. On n'imagine pas une tombe de Hitler quelque part. Elle est toujours sur la place Rouge. Il paraît qu'elle est régulièrement fleurie, qu'il y a des défilés en son honneur, qu'il y a des anniversaires qui sont fêtés, notamment dans son pays natal, en Géorgie. Mais est-ce que la raison n'en est pas que, malgré les crimes, Staline rappelle aux Russes une puissance qu'ils ont perdue avec la disparition du communisme?
Bien sûr, Staline devient un symbole de la grandeur de la Russie, mais justement c'est une sorte de manipulation, parce que au-delà de la grandeur de l'empire de Staline, il y a la grandeur de peuple et surtout la grandeur des grands personnages de la Russie démocratique, tels que Sakharov, ou pourquoi ne pas dire auteur de Docteur Jivago. Alors, il faut qu'on équilibre, même si Staline, ou le fantôme de Staline, nous donne la clé pour comprendre l'avenir et surtout le présent de la Russie, la veille de ces élections que nous allons avoir là-bas dans quelques semaines.
Et dont il est question de voir la manière dont Vladimir Poutine pourrait se succéder à lui-même, même si c'est par le truchement de quelqu'un d'autre. Vous avez été le conseiller de Gorbatchev. Est-ce que ça vous inquiète vraiment, cet avenir assez sombre, finalement, que vous décrivez de la Russie actuelle, d'ailleurs, et à venir?
Pas du tout. Vous savez, je mise au contraire sur la jeunesse russe. Il y a 10 millions de Russes qui utilisent l'Internet. Je mise sur ces gens-là pour, disons, surpasser, oublier cette ombre démesurée de Staline.
Écarter le fantôme de Staline, c'est le titre de votre livre, Vladimir Fedorovski, donc, qui a été publié, qui est sorti il y a quelques jours aux éditions du Rocher. À lire également, pour avoir une biographie, parce que ce n'est pas une biographie de Staline, celle de Jean-Jacques Marie, qui a été publiée chez Fayard. Je signale aussi qu'on peut vous retrouver, Vladimir Fedorovski, tous les dimanches sur France Info à 19h55 dans votre chronique Place Rouge, où vous retracerez l'histoire contemporaine de la Russie, de Lénine à Poutine. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Staline d'Ivan Passer. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Aveline Carmois et Christian Thibaudeau, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet tabou, l'islam et l'esclavage.
Au cours du premier semestre 2007, CNP Assurance a réalisé un bénéfice net courant hors plus-value de 392 millions d'euros, en hausse de près de 12% à données comparables. CNP Assurance continue de progresser en créant de la valeur pour ses actionnaires. Retrouvez toutes les informations sur cnp.fr ou appelez gratuitement le 0800 544 544. CNP Assurance, l'assurance de toute une vie.
Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré qui sont en direct de la grande halle de la Villette, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h. Les informations, Marie Euclin, bonjour.
Bonjour, les syndicats n'entendent pas laisser faire Nicolas Sarkozy. Cet après-midi et demain, ils entament une série de concertations pour définir une riposte commune aux réformes annoncées par le président de la République hier, avec un sujet numéro 1, la réforme des régimes spéciaux de retraite. La SNCF, le secteur de l'énergie et la RATP sont en tête du mouvement. Tous souhaitent le maintien des régimes spéciaux et leur remise en cause sera source de conflits comme en 1995 et 2003, prévient la CGT. La CGT qui annonce vouloir lancer un mouvement de grève en octobre dans les transports, un mouvement que la CFTC, FO et Sud sont déjà prêts à relayer. C'est dans ce contexte tendu que Xavier Bertrand, le ministre du Travail, entame cet après-midi, lui, 2 semaines de négociations avec les syndicats.